Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une semaine d'actualité estivale. Et pour commencer ce soir, on va discuter bière, lieu de vie et financement participatif avec Jean-François Guilleri, paysan brasseur au sein de l'Arborescence. Et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Très bonne émission. On quitte les rues angevines ce soir pour aller prendre l'air du côté de Saint-Georges-Butavant, à quelques kilomètres de Mayenne, où se trouve la ferme et brasserie de l'Arborescence, projet monté il y a plus d'un an par Jean-François Guilleri, qui y brasse des bières artisanales et certifiées bio. Attaché à son territoire et à l'envie de créer des liens entre les gens, il a par le passé contribué à monter différents projets aux alentours, comme la map de la bouche aux oreilles, ou le restaurant café-concert La Carotte. Il espère aujourd'hui pouvoir faire de son lieu de travail un lieu de vie et d'échange, et a lancé un appel à financement participatif afin de pouvoir aménager la brasserie, obtenir une licence 4, et créer un festival à la fin de l'été. On ne va pas parler que de bière, mais on rappelle que l'alcool est évidemment à consommer avec modération. Et pour discuter de tout ça, nous sommes en sa compagnie dans la terrasse, sur la terrasse ensoleillée de la brasserie. Salut Jeff.
Bonjour Thibaut.
Avant de parler des projets en cours, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Donc tu es très attaché aux terres de ta famille qui nous entoure, tu y travailles depuis longtemps. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de poursuivre cet héritage ou tu n'as pas toujours eu ça en tête?
Eh bien, je pense que je n'ai pas toujours eu ça en tête, hein, bien évidemment. Quand on est adolescent et fils d'agriculteur, il y a maintenant bientôt une trentaine d'années, c'est pas ce qu'on pense faire comme métier à l'avenir. On a même plutôt envie de quitter la campagne et de découvrir autre chose. Mais très vite, dans l'adolescence, en fait, j'ai ressenti que la terre allait m'appeler et que j'y reviendrais à un moment ou à un autre.
Et comment ça s'est fait? Alors, à quel moment ça s'est fait ce retour
à la... Eh bien, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de revenir sur les terres familiales après un BTS gestion et protection de la nature en Corrèze. J'ai fait divers petits jobs en fait saisonniers et j'ai voulu du coup me mettre à mon compte et démarrer une activité de maraîchage en agriculture biologique. À partir de là, j'ai décidé de m'installer sur la maison donc familiale, dans le corps de ferme, parce que ma grand-mère était partie en maison de retraite. J'ai donc racheté sa maison et démarré une activité de maraîchage sur un demi-hectare et lancé du coup l'approvisionnement de paniers et du coup la création de cette fameuse AMAP.
Oui, c'est ça, donc le lancement de l'AMAP était déjà une façon de créer du contact dans un territoire rural où les gens sont assez éloignés les uns des autres.
Oui, c'est ça. Ça a commencé en 2009. Les AMAP étaient très très peu connus en Mayenne. Il y en avait une à Laval, sur la préfecture. Mais là, en pleine campagne, c'était un challenge de faire comprendre aux gens que pour nous, c'est important de vendre les légumes avant qu'ils soient semés, assurer un revenu aux petits producteurs et surtout assurer un prix juste et équitable vis-à-vis du travail donné pour ces légumes. J'ai pas écrit la map tout seul, j'ai eu des citoyens, des consommateurs, comme on les appelle toujours aujourd'hui, qui étaient très très motivés de lancer la démarche. C'était donc deux personnes, je leur fais un hommage, donc Anne Garnier et Jean-Luc Boutier-Lochu. Il y a eu aussi Muriel Boutet, et puis mon frère qui m'accompagnait déjà à ce moment-là et qui était présent pour me donner des petits coups de main, quoi.
Et comment ça se passe alors dans le coin? Parce que moi, de ce que j'ai découvert, on est sur un territoire où il y a l'air d'avoir quand même un certain nombre de projets associatifs, de projets citoyens pour créer du lien. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu ces dernières années ou est-ce que ça a toujours été un peu comme ça?
Eh bien, faut savoir, c'est peu connu dans d'autres départements, mais le Nord Mayenne est très dynamique. Il y a, comme tu as dit, une vie associative très fournie. Les gens ici sortent, sont intéressés par ce qui se fait. Et donc voilà, il y a une activité déjà économique qui fourmille ici, hein. C'est pas la campagne rase. Le Nord Mayenne bouge vraiment d'un point de vue économique et culturel. Et donc il est assez aisé de créer et de se faire remarquer, se faire entendre sur n'importe quel projet. En fait, ici, il y a tout à faire et les gens sont très ouverts, quoi.
toi, alors après le maraîchage, après la MAP, tu as changé un peu de direction et tu t'es redirigé vers de l'élevage laitier, c'est ça ?
Quand j'étais sur mon demi-hectare de légumes, j'ai aidé mes parents à la traite parce que mes parents étaient éleveurs laitiers. Donc j'étais à mi-temps sur l'élevage laitier, je fournissais donc les légumes. J'ai décidé en 2011 de m'installer de façon plus professionnelle sur du coup 3 hectares de légumes avec un salarié et 1200 mètres carrés de serre. Donc en 2011 je me suis installé à mon compte et donc j'ai été maraîcher de 2011 jusqu'à 2018. Mon frère m'a rejoint en 2015, donc on a créé un GAEC qui s'appelait le GAEC Frères Guéri. Et à partir de là, du coup, voilà, l'entreprise s'est vraiment développée. La MAP a atteint 100 paniers par semaine. On a fourni les 4 biocoves du département. Et voilà, la machine s'est mise en route et c'était plutôt très très positif, quoi. Voilà, donc là, on a arrêté le maraîchage. Enfin, moi, j'ai quitté le GAEC en fin 2018. On était 6 à travailler sur 3 hectares, 4 salariés et 2 associés. Voilà, j'ai ressenti que mon chemin était arrivé au bout, donc concernant le maraîchage. Et j'ai fait le choix de m'intéresser du coup à l'élevage et à la brasserie.
Cette envie de la brasserie, alors, d'où est-ce que ça t'est venu ? C'est quelque chose que tu avais un peu en tête ou...
Eh bien, je suis très attaché à mes racines paysannes, mais j'ai toujours voulu être en lien avec du coup de la vente directe, avec un produit créé et fabriqué sur place à la ferme. Et la bière me paraissait quelque chose de très... pas forcément accessible parce que c'est très technique, mais en tout cas abordable. Et je pouvais du coup transformer de l'orge, donc l'orge produite sur la ferme, en bière. Et ça me passionnait déjà rien que d'y penser. Donc du coup, voilà, j'ai repris la ferme d'élevage de mes parents. Ils avaient arrêté le lait, donc j'ai repris juste un élevage allaitant. Et je produis de la bière avec l'orge de la ferme.
Et comment est-ce que ça s'est fait, ton apprentissage du brassage ? Est-ce que tu es passé par une formation ? Tu es allé voir ce qui se faisait ailleurs ? Il y avait tout à apprendre ?
Ouais, il y avait tout à apprendre. Je suis vraiment, vraiment amateur. Enfin, je connaissais pas du tout le métier. En fait, mon périple, il a démarré en Irlande, où je suis parti. Je suis parti en un mois en Irlande, où j'ai déjà. Je suis parti en immersion sur un peu la référence du monde de la bière, même s'il y a la Belgique bien sûr, mais les pubs en Irlande c'est quelque chose. Et avant de m'intéresser au brassage, je suis allé m'intéresser un peu aux peuples qui vivent par la bière quotidiennement, qui ont leur pinte de Guinness qui les attendent tous les soirs. Alors c'est pas tout le monde, mais c'est encore très ancré. Et donc mon périple a commencé en Irlande pendant un mois. Et après j'ai poursuivi dans le sud de la France et je suis allé apprendre à brasser dans le Lot, sur le Causse du Quercy, où là un paysan brasseur m'a enseigné les bases du brassage. Voilà, c'était dans le cadre du woofing, quoi. C'était une toute première approche. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était abordable. Après, bien sûr, j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse une formation. Et c'est là que j'ai décidé de faire une formation de 3 semaines à Poligny dans le Jura, dans un lycée biotechnologique. Ils ont leur propre brasserie. Et donc là, j'ai pu appréhender vraiment tout ce qui est en rapport avec l'hygiène, les mécanismes, le travail des enzymes lors du brassage, le suivi de fermentation, les différentes levures, les houblons, les malts. Enfin, là, j'ai vraiment pu tout approfondir. Et j'ai eu aussi du coup bien sûr des stages, donc une partie pratique dans 4 brasseries différentes. Et c'est là où j'ai pu du coup en fait projeter mon projet et le construire avec les possibilités que j'avais du coup ici à la ferme.
Une fois que tu es revenu là, donc l'installation de la brasserie, donc c'est une logistique assez, assez importante, comment est-ce que tu as fixé un peu bien le nombre de brassins que tu allais faire, la quantité que tu allais produire ?
Il y avait plusieurs possibilités, soit partir avec peu d'investissement et brasser sur 150 ou 200 litres, mais brasser très très fréquemment. Il faut savoir qu'un brassin, c'est une journée de travail, parce que c'est beaucoup de nettoyage. Qu'on brasse sur 150, 200 ou 1000 litres, je dirais pas que le travail est identique, mais en temps passé, c'est identique. Et donc, je voulais pouvoir avoir du temps pour la ferme, parce que j'ai quand même 80 animaux, 60 hectares. Je voulais avoir quand même du temps pour rester paysan et donc j'ai décidé de partir directement sur des brassins de 1000 litres et ce qui me permet du coup aujourd'hui de brasser que 2 fois par mois. Donc ça a dimensionné mon projet. Après bien sûr il y avait le montant des investissements et pour baisser les coûts j'ai fait le choix de partir sur du recyclage de tanks à lait. Donc pour la cuve d'empattage et d'ébullition j'ai des tanks à lait qui sont ronds et qui ont été modifiés par un chaudronnier ici local à Mayenne. Et voilà, après je suis parti sur 4 fermenteurs de 1000 litres pour avoir du coup une capacité de 25 000 litres à l'année, donc 250 hectos, avec 4 bières différentes, voilà.
Ça a commencé directement avec 4 bières ou est-ce que tu as commencé avec moins avant d'arriver à ces 4 bières différentes? Et comment tu as choisi ces bières? Comment elles ont évolué aussi peut-être?
Eh bien, de retour de formation, j'ai commencé à faire mes essais sur 35 litres pendant un an et demi. Et tout en faisant les travaux du local de la brasserie, j'ai brassé et j'ai testé du coup toutes les levures. J'ai testé les maltes, voilà mes recettes. J'ai créé mes recettes comme ça. Je voulais en fait partir sur 4 bières parce que je voulais faire un hommage à mes 4 grands-parents. Donc je suis parti sur ça, les racines de l'arborescence, voilà, c'est mes racines paysannes. Et je me suis dit pour un démarrage, je vais partir sur un hommage de chacun d'entre eux. Donc 4 personnalités très différentes, c'est ce qui représente vraiment les 4 bières. Une bière triple à 8 degrés avec une levure belge. Une lager, une blonde légère à 5 degrés 5. Une bière de blé, que j'appelle l'envolée, qui est à 6 degrés, fruitée, aromatique. Et enfin, une IPA rouge ambré, rouge cuivré, qui est surtout très, très houblonnée à froid, donc très aromatique, et qui a une amertume assez modérée.
Et la particularité alors de ces bières aussi, c'est qu'on retrouve sur les étiquettes des histoires, une différente pour chaque type de bière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que sont ces histoires?
Ouais, du coup, je tenais à raconter quelque chose à travers la bière. Pour moi, la bière, c'est la boisson la plus vieille au monde et elle se doit de raconter une histoire. Et donc, le slogan de la brasserie et l'arborescence, c'est « Paysan brasseur », parce que paysan, c'est mes racines. Et je tenais du coup à raconter un peu sous forme de fiction la personnalité de chacun des aïeux concernés. Donc j'ai à l'aide d'un ami rédigé des histoires qui du coup décrivent un peu la personnalité de l'aïeul concerné, donc du paysan. Et donc à chaque fois c'est une histoire qui va décrire la personnalité et qui va avoir en plus un lien avec la bière, quoi. Donc il y a deux choses qui sont mélangées.
Sur la dernière année, donc j'imagine qu'au fil du temps tu as appris aussi en faisant. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou est-ce qu'au contraire il y a eu des choses qui ont été plus simples à mettre en place que ce que tu pensais?
Eh bien, ouais, les difficultés, c'est toujours dans un projet, alors déjà, la première difficulté, c'est ce qu'on projette, ce qu'on pense être capable de faire et ce qu'on est réellement capable de faire. Donc, il y a toujours un écart. Des fois, ça peut être une bonne surprise, c'est qu'on se sous-estime, donc c'est très bien. Des fois, c'est l'inverse, donc on pensait maîtriser, puis on ne maîtrise pas. La difficulté, forcément, c'est les dépassements de budget. Quand on construit un projet à 100 000 euros, il y a toujours des dépassements. Donc ça, il y a eu des petites surprises. Après, sur les bières, eh bien, c'est évident que c'est très expérimental au début. Et donc, il m'a fallu là une année pour stabiliser mes produits, améliorer mes recettes. Donc voilà, je dirais que les petites surprises, c'était qu'au tout début, même si les bières plaisaient, moi, en tant que brasseur, elles n'étaient pas au niveau que je désirais. Mais ça y est, là, au bout d'un an, elles approchent de ce que je veux vraiment. Mais après, des mauvaises surprises, il n'y en a pas. Je dirais que la belle surprise, c'était que les gens, encore une fois, ont été au rendez-vous et ont été très, très bienveillants et m'ont fait de très très bons retours, en tout cas, sur ce que j'ai proposé. Ça m'a beaucoup touché, quoi.
Justement, donc l'année dernière, l'été dernier, tu avais déjà pu mettre en place un bar de manière ponctuelle pour présenter le lieu, pour présenter les bières. Comment ça s'était passé ces premières fois à faire venir le public directement ici?
Eh bien, j'ai pris l'initiative du coup l'année dernière d'ouvrir en début juillet. Donc, je ne vendais mes bières qu'à la ferme. C'est-à-dire que j'ai décidé que si les gens veulent découvrir mes bières, faut qu'ils se déplacent ici. Donc on les trouvait nulle part ailleurs. Donc c'était un peu la carotte pour découvrir les bières, il fallait se déplacer à la ferme. Et donc j'ai pu bénéficier des dérogations municipales de débit de boisson, donc j'en ai droit à 6 par an. Et donc l'été dernier, du coup, j'ai pu du coup ouvrir un bar éphémère sur tout l'été. Les gens sont déplacés, se sont inspirés du lieu, ont découvert les histoires, le graphisme. Et ça a été plutôt positif, les gens étaient là, certains ont pris le temps de venir, ils sont arrivés en fin d'été. Mais globalement, j'étais très touché de savoir que le mercredi soir et vendredi soir, j'avais des fois beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Ouais.
Cette année-là, tu as pu commencer à rouvrir encore quelques journées. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que comme l'année dernière, tu as eu du monde? Et puis, j'imagine que les gens sont contents aussi de pouvoir se retrouver après les différents confinements et couvre-feux qu'on a connus.
Bien oui, j'attendais avec impatience l'ouverture des terrasses pour du coup relancer le bar sur ce printemps et début d'été. L'intérêt aussi de réouvrir à cette période, c'était de communiquer sur un financement participatif parce que pour pouvoir rester un bar, et bien évidemment, il faut que j'achète une licence 4. je n'ai pas le choix du coup pour mon bar, la licence 3 m'ayant été du coup refusée. L'ouverture cette année a bien redémarré et les gens sont au rendez-vous. Ouais.
Il y a donc ce financement participatif, donc à la fois il y a l'obtention d'une licence 4 et il y a la volonté aussi de continuer à aménager la brasserie et de la rendre aussi plus accessible.
Ouais, c'est ça, donc l'idée c'est de devenir un bar du vendredi soir, toute l'année. Peut-être que je fermerai les mois les plus froids, genre janvier peut-être. Mais l'idée c'est d'avoir voilà, un accès digne de ce nom, donc avec des sanitaires, une rampe pour personnes en autonomie réduite pour la terrasse, avoir un poêle à bois, enfin faire un accueil vraiment chaleureux pour l'été et l'hiver. Et donc pour cela, j'ai besoin forcément d'investir un peu. Donc voilà, ça s'est intégré au montant global du financement participatif qui accompagne du coup l'achat de la licence 4. Quoi.
Tu peux nous dire un peu alors de combien tu vas avoir besoin et il va y avoir évidemment des contreparties. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça?
Oui, donc le montant global qui est donc de 17 000 euros est réparti en 4 postes, on va dire. Donc l'achat de la licence pour 5 000 euros, les sanitaires pour 5 000 euros, la rampe d'accès pour personnes autonomie réduite 2 000 et les différents aménagements dans le bar et la brasserie 5 000 euros. Donc voilà pour un montant global de 17 000. Je dirais que pour moi la priorité c'est vraiment l'achat de la licence 4 et les sanitaires, donc qui représentent un premier palier de 10 000 euros. Quoi. Donc le financement participatif est un financement don contre don. Et donc pour chaque don versé, il y a un contre-don proposé. Donc je peux vous les présenter si vous voulez. Pour 5 euros, vous avez la visite de la brasserie. Voilà, vous pouvez venir sur les heures d'ouverture et je pourrai vous montrer comment je fabrique la bière. Pour 10 et 20 euros, vous avez la visite et des dégustations. 10 euros, vous avez la bière du moment et 20 euros, vous avez en plus la dégustation des 5 bières. Voilà. Après, 30 euros, vous avez un lot de 6 verres sérigraphiés. Donc, c'est des verres, des ballons de 33 centilitres avec le logo de l'arborescence dessus. Pour 40 euros, vous avez un t-shirt arborescence en coton bio équitable. Voilà, l'idée, c'était de faire quelque chose aussi d'éthique. Ensuite, le contre-don à 50 euros. Donc, qui est le contre-don un peu fétiche du financement participatif. Fétiche, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est une entrée pour le tout premier festival de l'arborescence qui aura lieu le 20 et 21 août 2021. Donc, en fait, j'ai prévu sur ces deux dates de faire venir jouer 6 groupes de musique sur une jauge de 500 personnes chaque soir. Et donc, pour 50 euros, vous avez du coup l'entrée à un des deux soirs. Il y aura sur place un camping et une restauration. Donc je mise pas mal sur ce contre-don et du coup c'est aussi le sens de ce financement participatif, c'est qu'aussi il va lancer la création d'un nouveau festival mayennais qui aura lieu tous les ans.
Ce festival, donc tu sais déjà quels sont les groupes qui vont se produire?
Oui, donc je pourrais peut-être donner quelques petits indices. C'est vrai que j'ai pas encore annoncé sur les réseaux les groupes qui seront présents, mais je peux déjà vous en donner quelques-uns. Donc ce sera très éclectique. Il y aura de la chanson française avec Chesco, donc guitare, chant harmonica et Mazarin. Mazarin, c'est chanson française aussi, avec guitare et boîte à rythme. Il y aura une fanfare punk avec Schizophonix. Ensuite, il y aura Coco Bassai. Là, on est plus sur de la musique africaine, musique du monde. Ensuite, il y aura Iftol Family. Là, on est sur un style plutôt soul. Ensuite, vous aurez le plaisir de découvrir, si je ne me trompe pas, Duzo. Duzo, là, on est sur du hip-hop. Donc voilà, un style encore très différent. Alors voilà, certains ne viendront qu'un soir. L'idée, c'était de faire les deux soirs identiques. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas venir les deux soirs. Donc il y aura des groupes en plus. Donc ça me permettra de dévoiler des nouvelles pépites bientôt.
Donc là, ça te fait déjà encore beaucoup de nouveaux projets qui se lancent. Est-ce que pour la suite, pour l'année prochaine, ça va dépendre, j'imagine, du financement et des travaux que tu vas pouvoir faire ou pas. Tu as déjà un peu des idées par la suite de choses que tu aimerais peut-être sur le moyen terme développer?
Eh bien oui, il y aura toujours des nouveautés parce que j'en ai besoin. Il y a eu une nouvelle bière cette année, donc une Black IPA réalisée en collaboration avec une brasserie angevine qui s'appelle la brasserie La Gloutte à Chaux-de-Fonds-sur-Layon. Donc avec mon ami Gaël, on a inventé cette recette que j'ai décidé de garder. J'ai changé quelques choses, quelques éléments, mais globalement elle reste quasiment similaire. Et donc chaque année il y aura une nouvelle bière comme ça qui tournera, histoire de créer un peu de nouveauté, en tout cas sur la brasserie. Après, ce que je veux développer ici, c'est vraiment le côté culturel. Le lien en fait, hein, c'est un peu le sens de l'arborescence, c'est le lien, ce qui relie les gens. Donc la bière c'est finalement qu'un prétexte, mais il y aura toujours de temps en temps des événements ici qui seront peut-être en lien avec de la musique, mais pas que, il y aura aussi peut-être la danse, des conférences. L'idée à l'avenir c'est de créer un local ici qui puisse accueillir du monde toute l'année. je sais pas si ce sera un chapiteau, une grande yourte, mais un local normé, chauffé, pour pouvoir voilà, avoir un endroit chaleureux et puis où on peut vraiment réunir au moins une centaine de personnes. Quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié ?
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Eh bien que le contexte est finalement bon pour se laisser inspirer à créer des nouvelles choses et qu'il ne faut surtout pas se laisser embarquer dans un pessimisme ou une morosité finalement assez inutile. Il faut s'adapter et puis contourner dès qu'on peut. Voilà.
Il reste une vingtaine de jours donc pour ce financement participatif. C'est sur le site Tudigo. Vous pouvez retrouver donc la page en tapant Tudigo l'arborescence. Tu as également une page Facebook.
Oui, tout à fait.
Et on remettra tous les liens utiles, comme d'habitude, sur la page de cette émission. En tout cas, on te souhaite de réussir sur ces nombreux projets qui sont intéressants et riches de sens. Et je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci Thibaut, merci Radio Campus. C'était un plaisir.
de retour dans le pédalo sur Radio Campus Angers. Vous venez d'entendre à l'instant Dance Desire de Strata, le groupe de Gilles Peterson et Jean-Paul Blouet-Monique. Il va être quant à nous déjà l'heure de nous quitter. Merci à Jean-François Guéry de l'Arborescence. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et l'on se retrouve quant à nous demain soir. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.